Il est 7h30, soyez les bienvenus sur Inter. Le journal, Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des auto-écoles qui bloquent la circulation parisienne depuis une heure. Les moniteurs traditionnels dénoncent la réforme à venir du gouvernement qui veut favoriser les écoles de conduite par Internet. Explication en début de journal. Des victimes de cyberharcèlement dénoncent leur harceleur 10 ans après. C'est l'affaire de la Ligue du LOL qui embrase Twitter depuis quelques jours. Dans l'actualité également, la loi sur l'école devant les députés aujourd'hui. Les finances du Rassemblement National sont-elles sorties du rouge? Réponse dans le journal. Et puis le breakdance bientôt aux Jeux Olympiques.
L'académicien et écrivain Éric Orsenna qui publie Voyage au pays des bibliothèques aux éditions Stock est l'invité de Léa Salamé, je vous le rappelle, dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
Et on commence, Sébastien, avec un point route et un risque de collision entre auto-écoles.
Entre classique et moderne, entre les écoles, les auto-écoles traditionnelles et celles sur Internet, avec une différence de coût souvent substantielle de plusieurs centaines d'euros. Le gouvernement ne cache pas sa volonté de réformer le secteur pour faire baisser le prix du permis. Et l'une des pistes, justement, l'une des pistes d'un rapport qui sera remis demain au Premier ministre, c'est d'ouvrir encore plus le marché aux plateformes en ligne. Colère donc des moniteurs et des auto-écoles dites de proximité qui appellent à bloquer le périph' parisien et qui craignent de disparaître à cause de ces permis low-cost. Les précisions de Claire Chaudière.
En quelques années, les auto-écoles en ligne ont certes un peu bousculé le secteur, raconte Nassim Bouzid, moniteur en auto-école classique à Paris, mais ces plateformes peinent encore à convaincre.
On en a beaucoup qui nous disent « j'ai fait 12 heures de conduite avec Ornicar, avec permis.net, en voiture Simone, avec toutes ces plateformes qui existent, mais on ne me propose une date d'examen que dans 6 mois ».
Pas de date d'examen, manque de créneaux de conduite aussi, sauf qu'avec les scénarios à l'étude de réforme des agréments, ce nouveau modèle en ligne pourrait enfin se stabiliser et faire travailler des moniteurs auto-entrepreneurs partout en France, explique inquiet Patrick Mirouz, président de l'Union nationale des enseignants de la conduite.
Nous, on ne souhaite pas que la formation devienne low cost. C'est l'ubérisation, le modèle. Ça paraît alléchant, mais c'est un mirage. C'est des questions de santé publique. Et là, je crois qu'il y a des lignes rouges en dessous desquelles on ne veut pas descendre. Ça aura un impact sur la sécurité. Ça reste dans la mission de l'État de réguler.
Intégrer le permis au futur service national universel, bonne idée en revanche.
Tout ce qui favorise la mobilité des jeunes, pour toute une classe d'âge, je ne peux que m'en féliciter. Et les écoles de conduite, peut-être une partie de leur chiffre d'affaires qui peut partir là, mais ça c'est sain parce que ça bénéficie directement aux jeunes.
Mesure qui doit s'accompagner d'un financement du permis par l'État, soulignent les syndicats d'auto-école. Pourquoi ne pas utiliser par exemple, disent-ils, le 1,5 milliard d'euros récoltés via les radars? La somme correspond parfaitement au budget nécessaire.
Claire Chaudière, plus d'une heure de bouchon notamment dans l'Est de Paris à cause de ces blocages d'auto-école. Un point exhaustif à la fin du journal.
Eux s'étaient fait une spécialité de moquer, insulter, harceler des femmes sur les réseaux sociaux.
Oui, l'affaire a enflammé la toile sur tout le week-end. Dans le viseur, une trentaine de journalistes, publicistes ou communicants regroupés sous un compte Facebook du nom de la Ligue du LOL. De jeunes parisiens branchés, accusés de cyberharcèlement. Leur cible, des femmes mais parfois des hommes, féministes, blogueurs, jeunes journalistes devenus en quelques clics leur tête de turc. Ces cybervictimes ont décidé de sortir du silence la semaine dernière dans un article de Libération. Depuis, la parole se libère. Marine Protet.
Elle a à peine 20 ans lorsqu'elle devient une des cibles de la Ligue du LOL. Capucine Pio travaille alors dans la presse féminine. Elle est très active sur Twitter. Deux motifs suffisants pour être l'objet de moqueries. Traumatisée, elle décide d'abandonner son rêve d'être journaliste et change de profession.
Je me suis fait traiter de pute quand même sur Internet. On critiquait beaucoup mon physique parce que dans la tête de ces gens, avoir un blog beauté, donc pour parler de cosmétiques, il fallait être belle. Je suis convaincue aujourd'hui que je serais journaliste si ma réputation n'avait pas été freinée par ce d'action.
Des hommes aussi sont harcelés. Mathias Jambon-Puyer essaie à l'époque d'en parler, mais le dialogue est impossible. Seules des menaces physiques finissent par éloigner ses bourreaux.
Les virilistes ne répondent qu'à la virilité, ce qui est dramatique. J'en ai attrapé un, notamment par le col. Et je lui proposais qu'on s'explique, comme on dit, entre machos. Et à ce moment-là, il a perdu toute contenance et il est parti se réfugier très très loin dans le bar. J'ai attendu pendant plusieurs heures qu'il sorte, il n'est jamais sorti, mais je n'ai plus jamais eu d'ennui de la part de cette personne par la suite.
Tous affirment qu'au moment des faits, dans le monde des médias, les pratiques de la Ligue du LOL sont bien connues, mais personne n'ose porter plainte de peur de perdre son travail.
Vous retrouverez sur franceinter.fr les témoignages de ces femmes et de ces hommes harcelés par la Ligue du LOL. Une violente agression homophobe ce week-end à Bordeaux. 3 personnes frappées à terre devant le Buster Bar, un bar gay du centre-ville frappé pour avoir refusé une cigarette à un groupe de jeunes. Une personne est encore à l'hôpital. Une enquête judiciaire a été ouverte. Une enquête également ouverte, mais à Paris cette fois, après qu'un manifestant a eu plusieurs doigts arrachés par une grenade de désencerclement de la gendarmerie. C'était samedi, devant l'Assemblée nationale, lors de l'acte 13 des Gilets jaunes. Un acte au cours duquel un fourgon pénitentiaire, on l'a appris hier, a été pris à partie samedi, non loin des Champs-Élysées. Un pavé est passé à quelques centimètres d'un surveillant de prison, selon la ministre de la Justice. En politique, on s'arrête ce matin sur les délicates finances du Rassemblement National. Marine Le Pen sera l'invitée du grand entretien à 8h20 dans un peu plus d'une heure. Marine Le Pen qui cherche à financer sa campagne européenne. En septembre dernier, on le sait, le parti d'extrême droite risquait la faillite selon son trésorier. Depuis, la justice lui a rendu une partie de ses subventions publiques. Mais cela suffira-t-il ? Réponse avec Maxence Lambrecq.
Il demeure deux problèmes, deux grosses contrariétés. La première, c'est le financement de cette campagne des européennes. 4 millions d'euros à trouver, aucune banque française ne veut prêter. Alors Marine Le Pen pense à nouveau se tourner vers le micro-parti de son père, Cotelec, qui avait prêté 6 millions à la présidentielle. Problème, ce week-end, sur son blog, Jean-Marie Le Pen a dit non.
Malheureusement, nous nous trouvons actuellement dans une situation. Nous avons un débiteur qui, pour l'instant, n'est pas en mesure de nous payer. Par conséquent, nous ne pouvons pas prêter.
Et ce débiteur, c'est le Rassemblement National qui doit encore de l'argent à Cotelec. Le trésorier du RN cherche donc d'autres pistes en Europe. Ça avance, on finira par y arriver, se rassure un élu. Le second problème, c'est la dette du parti. Entre 12 et 13 millions d'euros, c'est moins que les Républicains. Mais quasiment rien n'est fait pour la résorber, se désole un cadre du parti. En septembre prochain, le RN va devoir rembourser le prêt russe de 9 millions contracté il y a 5 ans. Mais pour ce faire, il faudra emprunter ailleurs, admet un proche de Marine Le Pen, car la masse salariale est bien trop importante. Elle ne veut pas entendre parler de plan social, plutôt de départ à la retraite non remplacé. Il va falloir être patient, conclut un élu. Mais ça ne va pas nous empêcher de gagner.
Maxence Lambrecq, instruction obligatoire abaissée de 6 à 3 ans, refonte de la formation des profs, des pions, bientôt en renfort des enseignants. L'Assemblée nationale se plonge aujourd'hui dans le premier grand texte sur l'école porté par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale qui sera aussi saisi aujourd'hui d'un autre sujet brûlant, l'accompagnement des élèves handicapés à l'école. Les AESH, comme on les appelle, ne sont pas assez nombreux et leur formation surtout est très lacunaire. Un exemple, un simple bachelier peut devenir accompagnant après seulement 2 entretiens, totalement insuffisants pour les familles concernées. Reportage de Willy Moreau.
Véronique a scolarisé l'année dernière son fils autiste Nathan, une année de CP que le jeune garçon a passé seul, à jouer dans la classe d'à côté avec une accompagnante dépassée par ses symptômes.
Nathan faisait ce qu'il voulait, elle ne connaissait rien à l'autisme, elle a découvert, je pense, le handicap de Nathan le jour J quand on est arrivé à la rentrée.
60 heures de formation existent pourtant déjà au moment de l'embauche.
C'est une base qui est intéressante, mais qui n'est pas suffisante pour accompagner correctement des enfants en fait.
Cécile Stassi, accompagnante dans l'Académie de Paris, elle attend surtout
un plan de formation sur les spécificités des profils d'enfants à accompagner.
Et les 60 heures de formation annuelle, cette fois promise par Jean-Michel Blanquer, restent insuffisantes pour Catherine Pasquier, maman d'un enfant autiste. Elle a décidé de pallier elle-même ce défaut de connaissance avec son association Écoute Parents Enfants Autistes à Argenteuil.
L'année dernière, on a formé 15 AESH, plus de 21 heures de formation à qu'est-ce qu'un enfant autiste et comment peut-on l'accompagner. Mais voilà, on a formé 15 AESH, alors qu'il y a plus de 5000 enfants qui sont accompagnés dans le département.
Et dans le Val d'Oise, comme ailleurs en France, s'ajoute aussi le manque de personnel. Dans le pays, il y a seulement 43 000 AESH pour 175 000 élèves.
Le reportage de Willy Moreau.
Sans surprise, Sébastien, 7h38, Abdelaziz Bouteflika va se présenter pour la 5e fois.
Le président algérien, malade, victime d'un AVC il y a 5 ans et qui ne parle quasiment plus, ce président-là, candidat à nouveau donc à la magistrature suprême. Réaction de la
communauté algérienne dans les rues de Paris. Thibaut Cavaillès.
2, 3, 4, 5, 6. Wow, on en a marre.
Derrière son comptoir, Kader ne cache pas son agacement après l'annonce d'une cinquième candidature d'Abdelaziz Bouteflika.
C'est vrai qu'on en a marre.
Marre d'une farce qui a trop duré, selon ce patron de café dans le 19e arrondissement.
J'ai toujours voté, mais jamais voté sur Boutcherika.
Boutcherika.
Ouais, Boutcherika. Ça veut dire un voleur. Je pense que le peuple algérien est les murs au cerveau et ne doit pas revoter pour lui.
Abdelatif Bouteflika, victime d'un AVC en 2013, dont le son de la voix n'a pas été entendu par les Algériens depuis près de 5 ans. Au petit café de la poste de Kader, cependant, tous ne pensent pas comme le patron.
Ouais, je suis avec monsieur Bouteflika. Ouais.
Naïm, qui travaille sur les marchés, qui a toujours voté pour le candidat du FLN.
Parce que grâce à lui, il n'y a pas de terreau maintenant.
Terrorisme.
Ouais, des terreaux. Hein. Et maintenant, on y est bien.
Je vous pose directement une question qui concerne l'Algérie.
Depuis l'officialisation de cette candidature, les réseaux sociaux s'agitent. Les vidéos moquant Abdelaziz Bouteflika circulent.
Madame, je vous renvoie à la constitution algérienne.
Comme cette interview de 1999, le tout nouveau président Bouteflika y parle alors de résignation en cas de problème de santé.
Qui le rend absolument inapte.
C'est Hassan, dans le 20e arrondissement, qu'il a reçu.
On ne peut pas expliquer plus que ça, là. Il a tout dit lui-même.
20 ans plus tard, cette interview, selon lui et ceux qui la partagent, se passe de commentaires.
C'est un contrat colossal que vient de signer la France avec l'Australie. Un contrat de plus de 30 milliards d'euros pour la construction par le groupe français Naval Group de 12 sous-marins à destination de la marine australienne.
Et on termine, Sébastien, avec 6 lettres, H-I-P-H-O-P, le breakdance qui pourrait rejoindre donc les dieux de l'Olympe.
Ouais, c'est une information de notre service des sports. Le breakdance, en effet, pourrait intégrer le programme olympique de Paris 2024. Une idée pas si loufoque, Fabrice Rigobert.
Ne dites pas athlète, mais préférés B-Boys et B-Girls car ils disputent leurs battles sur du hip-hop en réalisant des figures acrobatiques avec des passages au sol sur fond de footwork, le jeu de jambes. À mi-chemin entre l'art et le sport, le breakdance né dans les ghettos s'est déjà frotté au monde olympique à l'occasion des JO de la jeunesse à Buenos Aires en octobre et la quarantaine de danseurs de moins de 16 ans engagés ont suffisamment convaincu pour imposer le breakdance comme une évidence avec la médaille d'argent pour le français Martin Lejeune. Le breakdance répond aux critères de rajeunissement du public fixés par le CIO. Le surf, le skateboard, l'escalade, déjà invité à Tokyo, sont dans cette même veine. Le breakdance a un autre avantage, il ne ferait pas trop grossir la délégation des athlètes, fixée à 10 500 en 2024, sports additionnels compris. Reste encore quelques détails à régler, comme l'impact financier de la création d'un site urbain. Tony Estanguet sera cette semaine à Lausanne pour évoquer ce dossier. Le CIO choisira définitivement en décembre les sports supplémentaires dans la liste qui lui sera remise par le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 le mois prochain.
Voilà, le résultat final, on le connaîtra le 21 février. Prochain, bonne nouvelle pour Sydney, notre ami de Street Dance. Voilà.
Merci Sébastien Legénine.